Open Mic. Next up on the mic. Open Mic, Open Mic. L'Open Mic avec Marceau et Audrey Pinchot. Un Marceau tout seul, c'est correct. Open Mic, Open Mic. Un Marceau bien accompagné, c'est tellement mieux.
Excusez. Est-ce quelqu'un qui peut rajouter une bûche? Ou deux?
Je ferais tant parnouche.
6h30 ce matin dans le secteur de Val-Bélair. J'embarque dans ma voiture. Moins 25 affiché sur mon tableau. Pas chaud pour la pompe à l'eau?
Ça fait mal.
Audrey Pinchot, salut.
Bon matin.
T'as-tu chaud pour ta pompe à l'eau?
Je me suis gelée solide en matin.
Ouais.
C'était un peu insultant. Je suis même partie 10 minutes en retard parce que je me suis dit non. Aucune chance que je commence ma semaine de même. Fait que j'ai fait chauffer mon char.
Ah oui?
Oui, mais c'était une 10 minutes. Et fait qu'au moins, j'avais fait chaud en embarquant dedans.
J'espère que le maire de la Ville de Québec t'entend. Parce que lui, il y a le pôle Nord à sauver, là.
Je suis très à l'aise avec ça.
T'es très à l'aise avec ça?
Ben oui, parce que je suis pas quelqu'un qui, tu sais, fait 17 chez nous. Je suis pas comme... Je nuis pas bien à l'environnement,
j'ai
moi,
de la misère
là.
À croire qu'il fait 17 degrés chez vous.
Juré
parce
craché.
Que l'après-midi, ici, t'as ta doudou sur ses épaules, puis il fait 23 dans
Mais c'est ça qui est le fun. Ce qui est le fun, c'est de
fun.
Te couvrir.
Ouais.
Fait que chez nous, je me couvre. J'ai mes gros pantoufles, j'ai mes cotons wattés. C'est ce qui fait que c'est le fun. Avoir chaud, c'est insultant.
Avoir chaud, c'est insultant.
Ah, c'est insultant. Okay. Maintenant, tu peux plus te déshabiller. Maintenant, t'es collant, c'est pas le fun.
Écoute, je parlais avec un de mes chums un matin. Il était bien insulté. Il est en Floride actuellement. Il est autour de 27-28 degrés. Là. Il était insulté, Audrey. T'as pas idée. Là.
Il était insulté qu'il fasse froid.
Oui, parce que tu dis qu'avoir chaud, c'est insultant.
Il était
outré de ça.
Oui, mais attends, là, il y a quelque chose, par exemple. Quand tu es en vacances, il y a une distinction. Tu acceptes, tu veux être là-dedans. Mais tu sais, imagine quand ici, il fait 30 degrés, puis là, tu sors de chez vous pour venir travailler, tu viens de prendre ta douche, t'es propre, puis là, tout d'un coup, t'es collant à nouveau.
Oui, c'est pas le même 30, t'as raison.
C'est dégueulasse. Ici, c'est humide, c'est épouvantable.
À 30, que ce soit en Floride, ben, tout dépendant de du moment de l'année. Là, mais mettons, à 30 au Mexique, 36, c'est pas du tout l'affaire ici. C'est très, très humide. Très content d'être là. J'ai eu une super de grosse fin de semaine. J'ai fait des tonneaux avec mon camion. C'était complètement fou.
Là, peux-tu m'expliquer ce qui s'est passé? Parce que moi, le seul brin de conversation qu'on a, c'est celui de notre conversation boulevard de groupe.
Oui.
Là.
Oui.
T'as fait des tonneaux, ton plus jeune était dans le char?
Oui, mon plus jeune, mon petit Zach qui était avec moi. On était plusieurs, là. Il y a eu un article du Journal de Québec à cet effet-là, d'ailleurs. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est dans la journée de samedi. Il devait être aux alentours de 10 heures, puis je descendais sur la 73 Nord. Puis rendu juste la sortie avant Brickeyville, je vois devant moi des chars qui commencent à aller d'un bord et de l'autre sur l'autoroute.
Fait que
là, je me rends compte que je dois être sur une surface qui est extrêmement glacée. Puis là, je regarde en arrière de moi, je regarde sur le côté, puis je me dis, je vais me mettre sur la voie de droite. Et sur la droite, la voie où tu dois constamment circuler, Audrey.
Oui.
Rappelle-toi, dépassement, voie de gauche,
ouais,
circuler,
droite,
voie de droite. Fait que je me mets sur la voie de droite, puis là, j'essaie de tester mes freins. Puis là, je me rends compte qu'on est vraiment toute la gang, à peu près une cinquantaine de voitures.
T'es-tu stressé à ce moment-là?
Non, je suis jamais vraiment stressé en voiture.
Même avec ton gars?
Je suis stressé quand je vois des véhicules qui arrivent en face de moi à 80 km/h, quand il fait pas super beau. Là.
Ouais.
Dans une courbe, mettons, ça me stresse. Mais bref, là, je vois que je suis sur une plaque de glace, puis je dis à mon gars, si je suis pas capable d'arrêter, on s'en va dans le banc de neige. T'es-tu correct? Il dit oui. J'ai dit, tiens-toi.
Lui, il devait se dire, ma neige, party, ça part.
Fait que là, j'applique un petit peu les freins, puis là, je vois que ma voiture commence à aller d'un bord et de l'autre. Puis là, je le sais où est-ce que je m'en vais. Je m'en vais directement où les 10 voitures tamponnées. T'as-tu vu l'article du journal que je t'ai envoyé?
Non? J'ai pas regardé les images. Je vais les regarder.
Sur l'article du journal, là, il est arrivé après que tout soit fait, là, mais il y a eu à peu près une vingtaine de véhicules qui se sont rentrés dedans, dont 7-8 qui étaient encore sur la photographie du Journal de Québec. Puis, moi, c'est ça. Fait que je suis en train de dire à mon gars, on va pogner le banc de neige parce que ça me tente pas d'aller rentrer devant le monde là. Il dit OK. Fait que j'ai juste un peu mis ma voiture en angle, puis je me sens aligné sur le banc de neige. Fait, mais ma roue côté passager, donc ma roue droite, elle a pogné le banc de neige, ce qui fait en sorte que ça a fait tourner mon Jeep.
Oh mon Dieu.
Et là, j'ai embarqué sur le banc de neige complètement sur le côté. Puis là, j'ai vu qu'il y avait des arbres, mais qui étaient beaucoup plus loin, genre, mettons, une quarantaine de pieds. Fait que j'ai dit à Isaac, on va monter sur le banc de neige, puis on va probablement tourner. J'ai dit, correct. Hey, ça va vite, là. Puis il dit, oui, papa, je me tiens.
Petit loup.
Fait que en tournant, au premier, je lui dis, ah, on en a fait juste un. Puis là, je dis à Isaac, non, on va en avoir un autre. Puis là, on a retourné. J'ai resté dans le banc de neige pendant. Puis je salue les gars de Transport Québec là, qui nous ont qui ont vraiment fait une super bonne job. Peut-être un peu moins la saleuse qui avait oublié de rentrer samedi matin. Mais les gars de Transport Québec nous ont accompagnés tout le long là, avec
fait que t'as
le véhicule.
Fait deux tonneaux. Ton char a viré de bord.
C'est deux tonneaux, mais dans la grosse neige folle.
Fait qu'au moins, OK, fait qu'il n'y a pas eu de gros impact majeur où, mettons, tu t'es cogné à la tête ou ton gars s'est cogné.
Il n'y a eu aucun contact, à part avec le banc de neige qui a fait flipper ma voiture, là. Aucun contact. Puis j'étais à peu près, je dirais, 20-25 pieds dans le champ, là. Et la remorque est arrivée, m'a sorti de là. Il a dit « Ton char a de l'air bien correct, roule un peu avec. » Fait que j'ai roulé, je suis revenu, j'ai dit « OK, il est correct. » Je suis reparti, j'étais avec un matin.
Voyons
ouais,
donc!
Il y a juste le capot qui est un peu enfoncé. Là.
Mais tu as été chanceux en maudit parce qu'imagine que les arbres avaient été proches, ça aurait pu être catastrophique.
Mais la pire affaire, c'est sûr que c'est facile à dire là, quand
de
ça vient
paniquer.
De pas paniquer.
Moi, j'ai mon kit dans le char, la panique
en marque.
Mais la
pire affaire, c'est la panique. Puis ton enfant va réagir sur toi, comment tu réagis. Fait que tu sais, j'y ai dit calmement, on va prendre le banc de neige, papa, il veut pas rentrer dans la gang de voitures qu'il y a là-bas. Puis il me dit « OK, tu sais. » Puis après
c'est
ça,
ton gars.
Quand on tournait,
ouais. Hey boy.
Le plus jeune, là, il est vraiment pas stressé. Puis quand on tournait, là, je gardais mon calme. Puis là, je disais, hey, finalement, on va en faire un autre.
Le manège, j'ai pas fini.
Ouais. Puis pas le garagiste, mais le remorqueur qui était bien relax, qui me dit.
Puis t'es réatterri sur tes quatre pattes, là.
Ouais, j'ai réatterri sur mes quatre pattes. Puis là, il m'a sorti de là bien tranquillement. Il m'a rembarqué sur l'autoroute. Il y avait les véhicules de Transport Québec qui étaient là pour tous les véhicules qui s'étaient rentrés dedans.
Ouais, parce que c'est deux collisions qui ont impliqué plusieurs véhicules en dedans de 30 minutes. Fait que ouais. Ça n'a pas arrêté, là.
Je te dirais, c'est entre 10 et 20 véhicules qui se sont accotés, là. Mais il y en a qui se sont arrêtés, ils ont échangé leur numéro de téléphone, ils sont partis.
Ouais.
Puis la température n'était pas vraiment nice ce samedi. Mais moi, au lieu de rentrer dans la gang, je me suis dit, je pogne le banc de neige. C'est à cet endroit-là que je m'en vais. Je pense que c'était la meilleure décision à prendre.
Ben oui, assurément, là, parce que là, toi, t'aurais tamponné, mais quelqu'un t'aurait tamponné dans le derrière aussi.
Oui, puis tu sais, je veux dire, ça se passe vite, mais je me souviens qu'il y avait déjà des gens qui venaient de se taponner, de se tamponner. Ouais, ça, c'était le film d'hier. Mais je me souviens qu'il y avait des gens qui venaient de se tamponner, qui étaient sortis de leur véhicule.
Ça, c'est
les
con.
Amis, ne faites jamais ça. Là.
C'est tellement innocent.
Votre zone de sécurité, c'est dans votre véhicule.
Oui.
Mais je comprends le réflexe de sortir de ton véhicule puis faire des signes avec tes mains en disant « arrêtez, arrêtez, arrêtez ». Mais non, reste dans ton véhicule. Puis si possible, si t'es capable de voir que... t'as comme un genre de 10, 15, 20 secondes, là. Change de banc puis va sur le banc passager. Si tu sais que si t'as à te faire rentrer dedans, ça, tu vas te faire rentrer côté conducteur pour te donner encore de l'espace
marche,
un peu plus si tu te fais rentrer dedans.
Mais tu l'as dit, ça va tellement vite. Il y a des gens qui ont même pas le temps.
Ouais. 3h30 dans le champ. Le policier est venu me voir, il dit « Ça va-tu? » Je vois, « Oui. » « Es-tu en sécurité? Es-tu en chaleur? » »« Oui. OK, je vais aller voir les autres.
» Oui, mais les autres n'ont pas choisi d'aller par priorité. C'est 5 blessés qu'il y a eu, là, des blessures mineures là, sur la gang, mettons, là, qui ont été transportées. Oui, c'est ça, exact. Il y en a qui ont été transportés par prévention. Tout le monde va vraiment bien au final, mais hey, je te trouve bon, je ne sais pas comment je réagirais.
Tu vois-tu le point noir en haut à gauche? Parce que tu as l'autoroute, là, puis là, tu as des véhicules qui sont aux abords là, du photographe. Le point noir dans le champ en haut à gauche, c'est moi.
C'est toi?
Ouais.
T'es le seul qui s'est ramassé à l'autre bout là-bas. C'était
ouais.
Que.
Mais ben, je voulais juste pas rentrer dans la gang. Mais en même temps, pour mes assurances, je pense que je vais être perdant.
Eh mon doux. Ben
parce
là...
que, au niveau des assurances, là, comme je n'ai pas rentré dans personne, personne ne me rentrait dedans, ben c'est moi qui est responsable de m'être tiré dans le banc de neige.
Ben là, je peux pas craire.
Fait que ce que j'aurais dû faire, c'est me faire comme un jeu de quai, rentrer dans les autres, puis dire aux assurances, regarde, moi, je me suis fait rentrer dans le péteux, là. C'est ça que j'aurais dû faire.
Dans ce contexte-là, je pense, par exemple, que tu vas quand même avoir un coup de main.
Ouais.
Ça a tellement été médiatisé, c'est partout. C'est dans ce contexte-là, tu avais ton kit dans le char. Je veux dire, tu n'aurais pas pu faire autrement.
Mais c'est ça. Il y a juste mon capot d'enfoncé un peu. Puis je pense que j'ai un couvert de roue là, qui sert juste d'esthétique, là, qui semble être un peu magané. Non, je l'ai échappé belle. Le remorqueur dit, c'est rare qu'on voit ça. Fait que, repart, là. C'est une journée de chance pour toi.
Je te trouve relax. J'ai fait un accident une fois où je me suis ramassé dans le banc de neige, puis je suis encore stressé aujourd'hui d'une route de campagne.
Ce qui est encore plus weird, c'est que je m'en allais à l'aréna de Montmagny pour la game de hockey de mon gars. Fait qu'il y avait d'autres parents qui partaient de la Beauce pour Montmagny qui ont vu que j'étais poigné dans le champ. Fait que mon gars est parti avec des parents. Ils sont arrêtés à côté de moi. Ils ont dit Ton gars, tu m'as donné un lift. J'ai dit oui.
Absolument.
Mais 3h30 à attendre dans le champ, c'était long.
Ben, je comprends. T'as pas manqué de gaz? T'as été correct?
Non, ben, tu sais, j'avais fait le plein à Scott, si je me trompe pas, là, pour être sûr de me rendre jusqu'à mon magny. Mais tu sais, l'importance de toujours être habillé avec ton manteau d'hiver dans le char.
Bien, au-delà de ça, l'importance d'avoir... Tu sais, mon chum m'a souvent dit, « Audrey, mets des bottes dans ton auto, mets des mitaines, tu sais, d'avoir comme des affaires au cas où, parce qu'on y pense pas quand on va travailler, quand on... » Tu sais, nous autres, moi, je me mets en jupe et en collant des fois, là, tu comprends?
Mais t'enlèves-tu ton manteau?
Dans le char, ouais. Non. Je garde toujours mon manteau dans le char, mais des fois, j'ai pas les manteaux les plus chauds parce que je fais point A au point B.
Il y en a beaucoup qui font Québec-Montréal puis qui enlèvent leur manteau. Ben mais oui. Si ils pognent le champ comme moi, j'ai pogné, puis les vitres pètent, puis t'es là pendant une couple de minutes, tu vas te geler le péteux, pas pire.
Non, ben c'est d'être bien équipé dans l'auto le plus possible, d'avoir c'est les petits kits de secours. Là, ça s'achète un peu partout, ça, là. T'as des couvertures thermiques, puis tout, là, si jamais tu pognes le champ, puis t'es pris.
Et en soirée, mon gars qui était avec moi dans l'accident a dit il a oublié de fermer la porte du frigidaire. Là, je dis Zach, peux-tu fermer la porte du frigidaire, puis apporte-moi ma bière, s'il te plaît. Il m'a dit ah, au moins, je suis encore en vie.
Vous êtes vraiment pareil. Tabarnouche, je te trouve bon.
Dis au moins, je t'ai encore en vie.
Seigneur.
Toi, ton week-end, comment ça a été? Là, t'as-tu pensé à Trump? T'as-tu pensé à Zelensky? T'as-tu pensé à la Troisième Guerre mondiale? Tu t'es sauvé de ça.
On a tellement parlé là, vendredi. Puis, bon, honnêtement, je t'ai encore insulté. On échangeait un peu là-dessus.
T'es insulté?
Non, mais je trouve ça tellement ridicule. Là, et que je trouve ça cabochon. Fait que non, en fin de semaine, j'ai tiré la plug. J'animais ici. Après ça, moi, j'avais l'anniversaire d'une petite de 2 ans, la fille de ma chum qui avait 2 ans. Fait qu'on est allé fêter sa fête à Saint-Henri. Puis j'ai été très, très occupée le samedi. Puis tu vois, le dimanche, hier, là, j'ai rien fait, là, mais dégueulasse. Là. J'ai mangé. J'ai été sur mon divan avec ma doudou, j'ai regardé une série, puis j'ai vraiment rien fait, là. Fait que ça a fait vraiment du bien. Je me suis reposée un matin, fait que le matin, ben, je me suis levée bien bientôt, puis j'ai commencé ma journée.
T'es-tu prête à être à moitié morte la semaine prochaine?
C'est pourquoi je serai à moitié morte la semaine prochaine?
Parce que la semaine prochaine, on ajuste l'heure.
Ah, c'est vrai, déjà, hein?
Ça va être dans la nuit du 8 au 9 mars.
Oui, mais là, on gagne une heure. C'est ce moment-là de l'année où on gagne
une heure.
Je pense
qu'on se lève plus tôt, là.
T'es sûr de ta chope?
Je pense qu'on se lève.
Qu'est-ce que ça dit?
T'es peu.
Qu'on interprète de la bonne manière, parce que moi, j'ai tout le temps
en tête... On perd une heure de sommeil.
On perd une heure?
Ouais, ça, c'est ça. Ça veut dire que lundi, tu vas être un peu plus magané.
Arc!
Puis là, j'attends toujours mon Francis, là, qui est en Europe, là, qui nous parle toujours du changement d'heure puis qui nous fait une chanson.
Oui, Francis.
Sarlette.
Oui.
Francis Sarlette.
Il est incroyable.
N'oubliez pas de changer l'heure.
Mais ce gars-là, il
faut pas oublier.
Lui, il a tout compris dans la vie. Il s'est dit, moi, j'aime chanter.
Ouais.
M'en sac de ce que le monde pense, même si je chante mal, je vais chanter. Et il chante à toute occasion possible. Si vous le suivez sur ses réseaux sociaux, là, il est bien connu pour le changement d'heure, mais il chante tout, là. Je veux dire, le dimanche, il mange une toast au pain doré. Il va chanter qu'il a mangé une toast au pain doré.
Oui.
Il est très actif.
Mais moi, principalement pour le changement d'heure, moi, c'est mon gars qui m'annonce qu'on doit changer l'heure, même si depuis une couple d'années, c'est vraiment ton cellulaire qui change d'heure, tout ça. T'as plus rien à ajuster, là, pratiquement. Peut-être le four. Le four, puis...
Oui, puis le micro-ondes.
Puis celui-là, dans mon char, je l'ajuste pas pantoute. Fait qu'une fois... Une fois par année, je suis à l'heure.
Tu fais le calcul mental, puis le reste de l'année, fait que là, si je comprends bien, à 2 heures, il va être 3 heures.
Exact. Fait que dans les bars, là, il y en a qui seront pas heureux. Là. Mon chum Max, ça va y faire 1 heure de moins pour cruiser dans les bars ou dépenser son argent avec l'alcool. Mais à 2 heures du matin, on ferme le bar.
C'est
parce
terminé.
Que ça va être considéré comme 3 heures.
Oui.
Puis là, si tu te lèves à 6 heures lundi, il va être quelle heure?
Ben là, si je me lève à 6 heures lundi,
c'est comme si
dans
tu te levais
à
5 heures.
Exact.
Voilà.
Mais le bon côté de ça, c'est qu'il va faire clair plus tôt.
Oui, ben plus tôt. Pas techniquement, il fait toujours clair à la même heure, là. Ben au même moment, c'est juste nous qui jouons avec les heures.
Oui, c'est ça, mais il va clair faire... Tu sais, avec la nouvelle heure, il va faire clair plus tôt.
Non.
Yannick!
Non. Le soleil, il ne fait pas avec ton changement d'heure, là.
Ben...
Le soleil, il se lève au moment où il doit se lever, là.
Fait que si, mettons, il est 6 heures, mais il est censé être 5 heures, ça veut dire qu'il va faire encore noir.
Ça, ça n'a pas rapport.
On a ajusté l'heure
en fonction...
C'est pour ça qu'on a ajusté l'heure, c'est pour les journées plus longues.
Puis,
exact, c'est ça.
Mais c'est pas parce qu'on change l'heure que le soleil dit « Ouais, Chris, on vient changer
non, mais,
l'heure, j'arrive. »
Non, tu gosses. Ce que je veux dire, c'est que l'heure à laquelle tu vas te lever, va-tu faire plus clair ou plus noir?
D'après toi?
Plus noir.
Il va faire plus noir.
Mais il va faire clair plus tard. C'est ça? Ben oui, c'est ça. C'est ça, ça veut dire que mec, on termine le show, nous autres, à 18h, c'est comme si en réalité, il était 17h, fait que ça veut dire qu'ils vont encore faire clair à 18h. Tabarnouche, on y est arrivé, ouais. Gang.
Si tu te fies sur l'heure, t'as effectivement raison.
Ben oui, j'ai raison, j'ai toujours raison, Yann.
Juste à dire que c'est pas parce qu'on change d'heure que le soleil décide qu'on embarque avec nous autres.
Je comprends tes grandes théories, le même point.
C'est pas une théorie, j'ai entendu ça à Radio-Canada, j'étais pas en mode rire. C'est des gens qui sont plus intelligents que nous autres, là, ouais. qui perlent un peu. Que...
Oui.
Nous avons été éduqués, là.
Mais c'est une façon de parler. Ouais. C'est une façon de se dire qu'il va faire plus clair, mais qu'il soit 6 heures, parce qu'en réalité, il serait 5 heures.
Cette façon de parler-là, oui, j'acquiesce.
Bon, t'acquiesce?
Oui.
C'est parfait. Tant que t'es d'accord avec nous, moi, je suis heureuse.
J'acquiesce. Fait que bref, changer l'heure dans la nuit de samedi à dimanche. Qu'est-ce que ça dit par texto? J'ai-tu dit une niaiserie, là, quoi?
Non, je pense que... Il y a des gens qui nous disent qu'ils étaient moins mêlés avant de nous écouter. Christo, je te salue, je comprends. Mais on essaie de se démêler à la gang. Faut juste suivre. Faut suivre un matin. Mais la majorité des gens ont l'air d'accord avec nous autres. Là.
On avance l'heure, oh oui.
Oh oui, c'est ça. Soleil jusqu'à 6 p.m. au lieu de 5 p.m. C'est exactement ce que je voulais savoir.
Mais le soleil, lui, il n'y en a rien à battre. Là.
Oh oui, mais c'est pas grave. Le point, c'est que dans nos têtes, de façon superficielle, il va faire clair tout d'un coup.
Ouais.
C'est tout ce qui est important.
Tu vas-tu changer l'heure sur ton VHS?
J'aurais pas à le faire.
Non.
Non.
C'était-tu toi qui programmais ça? Non, mais toi, t'as pas connu le VHS. T'as-tu connu...
Mais je sais c'est quoi un VHS.
T'as connu le DVD.
Oui, mais j'ai VHS aussi, c'est mes parents qui avaient ça probablement.
Puis le bêta, t'as-tu connu ça?
Non, bêta, là, tu me perds complètement.
T'as pas connu le bêta?
Non.
Ben moi, je me souviens que quand j'étais jeune, il y avait une guerre entre bêta puis VHS.
Oh oui, j'ai eu un VHS.
T'as eu un VHS?
Oh, oui, okay. Je regarde les photos, là, je sais c'est quoi celui-là.
C'était une guerre qui était un peu comme Mac ou PC.
Ouais.
Puis là, Beta a perdu. Là, c'est le VHS qui l'avait emporté. Puis par la suite, c'est le DVD qui est arrivé. Mais ouais, c'est ça le VHS.
T'as-tu encore un lecteur DVD à maison?
J'ai ça sur le Xbox à un de mes gars.
Ah, c'est ça. Toi, tu peux utiliser ça.
Mais j'en ai pas pour moi. Tous mes trucs, mes photos, ouais, tout ça, j'ai tout transféré ça okay. sur des clés USB spéciales.
Ah, mon Dieu, mais là, mais ça, c'est un disque dur, pas c'est une clé USB?
Non, non, j'ai deux clés USB que je mets à des endroits différents.
Précise,
là.
OK.
Donc, la mère de mes gars a une clé USB avec les mêmes informations que sur ma clé USB. Fait que toutes nos affaires sont comme ça. Puis quand il y a une mise à jour à faire... Ben là, je me déplace avec mon ordinateur, puis là, je fais les mises à jour où on rajoute les photos de nos enfants pour les albums et tout ça.
C'est le fun, ça.
Ouais. Je pourrais m'inscrire dans le nuage, là. Mais,
oui, le cloud.
Ouais, mais j'ai trop d'histoires d'horreur par rapport au cloud. Là. Des gens qui ont perdu quelques photos ou qui n'ont pas été capables de récupérer leur compte ou qui se sont fait complètement hacker leur compte puis sont plus capables de rentrer dedans parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a rentré, qui a fait un changement de mot de passe.
Moi, tu vois, j'aurais peur pour la clé USB.
Mais pas si tu en as deux pareils, à oh, deux oui. endroits différents.
Ah, c'est sûr. C'est plus de chances de sauvegarder de la bonne façon. Ah, il y a quelqu'un qui te demande, Yann, peut-être que tu as l'information, là, l'accident là, dans lequel tu as été impliqué d'une certaine façon.
Samedi matin, oui.
Est-ce qu'ils ont fait des tests de dépistage pour drogue ou alcool, finalement?
Je sais qu'il y a une enquête qui était en cours, là. C'est ce que j'ai pu voir dans le Journal de Québec, mais honnêtement, c'était une surface glacée. C'était plus glissant qu'une patinoire, ce qui fait en sorte que les... Il s'agit d'un premier véhicule qui commence à louvoyer d'un bord et de l'autre, puis capable d'arrêter, puis que les autres essayent de faire la même affaire, de se tasser. Puis là, les gars, ça se rentre dedans, ça tournoie, oh. puis tout ça. Mais c'est vraiment une erreur là, de déneigement. Là. Il n'y a pas de sel qui était là, il n'y a pas de calcium qui a été rajouté, de sable, il n'y avait rien.
Rien pour aider.
Puis le policier a dit, quand ça fait ça, là, la circulation... arrête, va au ralenti, puis là, ça fait fondre la glace qui est en dessous sur l'asphalte.
Ouais, mais c'est un peu niaiseux.
Comment ça?
Mais non, mais si l'autoroute...
Faut que tu le fasses avant.
Ouais.
Mais là, comme il y a eu carambolage, ça a créé du trafic. Fait que les véhicules, avec la chaleur qui était
on
en dessous...
On fait fondre la glace.
On fait fondre la glace, puis là, ben, ça commence à aller mieux, tu sais. Mais la job aurait dû être faite avant.
Préalablement.
Tu sais, il va y avoir enquête, là, une dizaine de véhicules qui se ramassent dans même dans le décor. C'est pas l'erreur d'une seule personne. Quelqu'un qui dit oui ou non, dépistage, n'importe quoi.
Mais on vient de répondre.
OK. Okay.
On ne sait pas encore. C'est sous enquête. On n'a pas l'information, tout simplement.
En français!
Veux te dire, parlant de circulation et compagnie, là, dû à un accident un peu plus tôt, là, il y a des problèmes pas mal en ce moment si vous tentez d'aller rejoindre le pont Pierre-Laporte, direction nord. Si vous êtes sur la 73 en ce moment, ça ralentit quand même assez tôt, à peu près à la hauteur là, de l'avenue de la Rotonde jusqu'à peu près à l'entrée du pont. Il y a des problèmes, évidemment, aussi sur la 20, direction est et ouest, quand vous tentez d'aller chercher le pont Pierre Laporte. Pour le reste, ça roule super bien. Évidemment, il y a quoi que ce soit. 88-971, vous vous gênez pas. 102.
Tu veux que je te parle de mon champion du week-end?
C'est qui ton champion du week-end?
Tu me l'as envoyé par Messenger tantôt, puis je me l'étais mis de côté. C'est un gars de Chaudière-Appalaches, plus précisément de Saint-Georges-de-Beauce. Ça existe-tu encore, des gens qui font des cases de dépanneurs? Tu sais, des vols de dépanneurs?
Ben oui, là. Oui, ça existe encore. Là.
Okay. Mais il n'y a plus d'argent dans les tiroirs caisses.
Non, je pense que les gens oublient ça aussi. Il y a de l'argent, il y a max 200.
Tu peux avoir 50, 100, puis peut-être dans le petit coffre en dessous. Là, nous autres, c'était comme ça. Là. C'était un coffre qui prenait à peu près 5 à 10 minutes à ouvrir. Fait qu'il fallait que tu rentres le code, puis après ça, tu te mettais un chrono, puis là, ben, ça débarrait. Il n'y a plus d'argent. Fait qu'on en entend de moins en moins parler des vols de dépanneurs. Puis en fin de semaine, dimanche, après-midi, vers les alentours de 14h, il y a un gars qui est entré armé dans un petit commerce qui est situé sur le boulevard Dionne à Saint-Georges-de-Beauce.
Un gars dans la trentaine.
Oui, puis pourquoi je te dis ça? C'est parce que le gars, il était armé, mais pas nécessairement solidement, là. Il n'y avait pas d'arme à feu, il n'y avait pas de couteau, il n'y avait, pas de sabre, il n'était pas muni de ses cours de karatéka, là,
non,
ceinture
non.
verte.
Il s'est dit, il m'a prendre ce que j'apporte une main.
Il est rentré avec une pelle à neige.
Ça me fait tellement rire. Qu'est-ce que tu veux faire avec une pelle à neige?
Il est rentré avec sa pelle à neige.
Oh là là!
Et il y a des clients qui étaient dans ce dépanneur-là, de ce qu'on comprend, qui ont dit « Hey, hey, qu'est-ce que tu fais là avec ta pelle à neige? Tu fais pas peur à personne », qui ont sauté dessus, puis qui ont maîtrisé l'individu. En passant, tu as le droit de le faire. Ça s'appelle une arrestation citoyenne.
Moi, j'aurais fait la même chose. Là.
Ah oui?
Ben là, le gars, il a juste une pelle, c'est sûr.
Ouais.
C'est sûr.
Toi, t'aurais sauté sur le gars avec
Absolument.
La pelle.
Absolument.
Oui.
J'aurais tiré sa pelle au moins.
Oui. Faut que t'appognes la pelle.
Oui.
Mais ça s'appelle des arrestations citoyennes. Quand vous voyez, un agent de sécurité, techniquement, l'agent de sécurité, il peut pas arrêter le monde. C'est pas une police, là. Mm-hmm. Sauf s'il voit un délit. Donc, si t'es un agent de sécurité dans une pharmacie ou encore dans une épicerie, j'ai vu qu'il y avait des agents de sécurité dans les épiceries, surtout secteur IGA. Là. Il y a des gens qui se promènent toute la journée au IGA puis qui vérifient si les trucs que tu prends, tu mets pas dans ton sac à main plutôt que dans le fameux sac réutilisable. Bon, donc lui, s'il te voit voler, il te suit. Puis une fois que tu sors de l'établissement, c'est clair et net qu'il t'a vu et qu'il n'a pas arrêté de te regarder jusqu'à temps que tu sortes, ben, il peut procéder à une arrestation citoyenne. Fait qu'il te prend, il te met en état d'arrestation, puis il t'amène en arrière, puis là, il appelle la police et là, les policiers procèdent à l'arrestation en bonne et due forme avec la lecture de tes droits et tout ça, si ça se rend jusque-là. Bien souvent, ça ne se rend pas jusque-là, mais toi, tu peux le faire. Tu peux maîtriser un individu qui est en train de commettre un délit sans aucun problème.
On voit souvent ça, tu sais. Il y a une couple de semaines, moi, là, qu'il y a deux personnes dans un Super C qui ont voulu partir puis qui ont volé. Puis c'est un gars là, qui a sauté sur un des deux individus. Tu as des gens qui ont comme le héroïsme en dedans de autres puis qui ont comme un besoin d'intervenir. Là, mais je trouve ça cocasse, l'appel.
C'est parce que tu deviens extrêmement fort. Quand l'adrénaline s'empare de toi, là, tu deviens extrêmement fort. Puis il y en a, tu sais, il y en a qui. C'est les 3 F. Il y en a qui vont fuir, il y en a qui vont figer, puis il y en a qui vont foncer. Puis ça, t'apprends ça quand t'es dans l'armée canadienne. Là.
T'apprends fuir, ça dans tes RCR aussi.
Fonger, Ah ouais?
Ben oui, parce qu'ils te disent de pas t'en vouloir si jamais tu sauves pas quelqu'un sur le bord de la rue parce que t'es pas capable.
Parce qu'il y a les 3 F qui peuvent s'appliquer. Puis dans ce dépanneur-là, où le gars de 30 ans a tenté de faire la caisse, ben il y avait des clients qui ont décidé de sauter dessus. Puis ils ont attendu les policiers de la Sûreté du Québec.
Lui, il voulait l'argent du tiroir caisse, puis il voulait aussi des cartes cadeaux prépayées. Que tu se dire, m'en mettre une pelle dans mon char, c'est à matin que ça se passe. Mais ça, ces gens-là, je suis désolée. Là. Un trentenaire qui se pointe dans un dépanneur avec une pelle, il y a un problème au deuxième étage. Là. Il y a consommation, il y a quelque chose qui roule pas rond. Là.
Mais tu comprends que si on se base sur ça pour pardonner.
Non, tu peux pas pardonner. Ce que je veux dire, c'est que c'est drôle.
Quelqu'un
là.
Qui tue quelqu'un, faut pas bien aller dans sa tête pour tuer quelqu'un.
Ouais, mais lui, il n'y a pas de malice, Yann. Là. Il s'est dit, il m'a braqué un dépanneur. Première affaire qu'il pogne, c'est une pelle à déneigement. Voyons donc.
Quelqu'un qui dit, moi, j'ai eu ça, mais différemment, il y a 3 semaines, pas volé, j'ai été jugé bizarre, car 2 heures dans l'épicerie et dépensé 360 $. J'ai été jugé.
Pas Parce qu'ils prenaient trop de stock, ça veut dire?
Je sais pas, mais aujourd'hui, c'est pas évident. Tu sais, moi, j'ai fait cette job-là là, chez Jean Coutu. Là, je travaillais pour Sécurivol. J'étais jeune à l'époque, puis je me promenais. Là, c'était un, je me rappelle pas le nom qu'ils nous donnaient. Là, mais c'était, on se promenait dans la pharmacie, puis on essayait de pogner des voleurs. On regardait dans les miroirs en haut. Là. Tu sais, les miroirs. Oh,
ouais,
là.
Les petits ronds. Là, ouais,
bon,
ouais.
Fait que toi, tu te tenais loin, tu te mettais dans l'angle, puis tu vérifiais si la personne gardait les trucs qu'elle prenait dans ses mains jusqu'à temps qu'elle arrive à la caisse. Mais dans le temps, les gens ne mettaient pas ça dans des sacs. Là, aujourd'hui, là, les gens mettent ça dans des sacs réutilisables. Fait que c'est un peu plus complexe. Là. Oui, elle l'a-tu mis dans sa sacoche, elle l'a-tu mis dans le sac réutilisable, puis quand elle va se pointer à la caisse devant la caissière, elle va-tu juste sortir ce qui est dans le sac réutilisable ou elle va sortir ce qui est dans sa coche?
Oui.
C'est touché en sacrifice, là.
J'oserais jamais. Je comprends pas le monde. En fait, je comprends la détresse humaine qui peut te pousser des fois, mettons, à voler dans une épicerie, tu sais, quand tu veux nourrir ta famille puis tout. Là, mm-hmm. J'ai une certaine empathie, là, mais je serais jamais game, juste par peur de me faire pogner.
Nous autres, c'était les dans le coin de la pharmacie. Là, tout ce qui pouvait toucher la pharmacie là, puis qui pouvait servir à faire de la drogue par la suite, là, ben on se faisait voler souvent ça chez Jean Coutu. Puis là, des fois, les gens, ils prenaient le petit tag magnétique, là, puis ils le jetaient à terre. Ou ils sortaient le truc de pilule, là. Ils sortaient de la petite boîte, puis après ça, ils vérifiaient s'il y avait un tag, et puis ils se promenaient un peu dans la pharmacie, puis une fois qu'ils sentaient qu'il n'y avait pas de yeux, ben, ils se mettaient dans les poches, puis ils quittaient la pharmacie. Et nous autres, ça, on avait des trucs. Là. Quand on voyait la boîte à terre, on avait un truc. Là.
Ben là.
C'était quoi le truc, tu t'en rappelles-tu?
Non, je sais pas.
Je te l'ai pas déjà dit?
Non, tu m'en as jamais parlé à moi.
Quand c'était clair et net que la personne avait droppé les pilules dans ses poches, puis qu'elle avait laissé la boîte là, là puis que moi, je l'avais vu visuellement, là. Je traînais tout le temps avec moi des petits tags magnétiques qui collaient. Fait que je m'approchais de la personne, j'enlevais le petit papier pour que ça colle, puis je faisais « Ah, excusez! » Puis je le collais dans son dos. Fait qu'elle, elle pensait qu'elle s'était débarrassée du tag magnétique, fait qu'elle sortait de la pharmacie, ça sonnait. Puis là, j'étais là, toujours avec le même discours. « Bonjour, est-ce que vous avez payé tout ce que vous avez pris à l'intérieur? » Puis là, la personne disait tout le temps « Oui, oui, j'ai... » Je vous le demande une dernière fois, après ça, je vais devoir faire venir les policiers. Est-ce que vous avez payé tout ce que vous avez pris à l'intérieur?
Est-ce que les gens confessaient?
Puis bien souvent, ils droppaient ce qu'ils avaient pris là, pour essayer de s'en sortir parce que tu leur donnais une opportunité de « je vais vous le demander une dernière fois, sinon je vais être obligé d'appeler les policiers. Ouais. Est-ce que vous avez payé tout ce que vous avez pris à l'intérieur? »
Hey, mais t'étais bon, par exemple, j'aurais appelé les policiers pareil.
Ouais. C'est juste que moi, je me demandais tout le temps, genre mon tag, là, il allait sonner dans toutes les pharmacies où il allait passer. Là. Je l'enlevais pas de leur dos. Là.
Fait qu'il fallait qu'ils s'en rendent compte. T'es malfaisant. Mais c'est cocasse, par exemple. J'aime bien.
Ouais. Ah non, on s'amusait. Je faisais ça, ce travail chez Sears. On appelait ça client mystère. On surveillait en magasinant. Non, nous autres, c'était agent. Je me rappelle pas. C'était Sécurivol. Je sais pas si ça existe encore, cette entreprise-là. Mais c'est une entreprise qui appartenait dans le temps aux pharmacies Jean Coutu. OK. Hey, aujourd'hui, on a un gros show, les amis. Notre ex-enquêteur, Danny Morissette, ex-enquêteur à la Sûreté du Québec, au crime majeur, qui va revenir après quelques semaines à nous avoir fait patienter.
On s'ennuie.
Ben oui, il y avait d'autres choses à faire. Donc, Danny Morissette qui va être avec nous autres. On va parler du dossier de Godasse, celui qui a fait tomber Maurice Boucher. Puis on va parler aussi de détecteurs de mensonges.
Oui, puis...
T'as-tu déjà pensé ça, un détecteur de mensonges?
Délateurs? Non, puis je serais curieuse de voir comment ça fonctionne, pour être bien honnête.
Ouais.
Ou que quelqu'un puisse venir nous en parler. Là, j'ai entamé des démarches parce que je me demande... En fait, j'ai plein de questions sur le pourquoi, mettons, c'est pas admissible comme preuve dans notre système de justice. J'ai jamais pensé ça, puis... Bon, je sais que c'est pas 100% véridique à tout coup, là, mais de ce que je comprends, c'est le moindrement que tu es une personne stressée dans la vie, tu as pas mal de chances de l'échouer. Là, parce que ça y va avec tes battements de cœur, ça y va avec la réaction physique de ton corps.
Mais je suis pas sûr que le stress est suffisant pour faire sonner la machine.
Tu penses?
Ouais.
Parce qu'aussitôt qu'ils observent que ton cœur bat plus vite, ou pour eux, c'est des indicatifs.
Parce que d'après moi, ça doit être fait. Là, si tu sais que tu vas passer un test de détecteur de mensonges, t'es stressé, tu sais pas les questions qu'ils vont te poser. Fait que tu peux paraître d'un menteur sur les 25 questions.
T'en as-tu déjà fait un?
Non, j'en ai jamais fait.
J'aimerais vraiment ça.
J'en ai
ça.
Jamais fait. J'ai failli en faire un parce que j'avais fait une demande pour travailler pour la Gendarmerie royale du Canada.
Okay.
Puis j'avais fait une demande aussi pour l'EPIC à Montréal, qui était l'école de pompiers. J'étais jeune à l'époque. Puis je le savais que dans... Je pense que c'est pour la GRC. Tu avais un test de détecteur de mensonges à passer. Puis tu avais aussi une rencontre là, où tu as deux agents qui se pointaient, qui faisaient le tour de tes amis. faisais le tour de tes voisins pour savoir si t'étais un bon individu.
Mon doux Seigneur.
Fait que j'ai pas envoyé mon CV.
Mais on... il s'est dit, il m'a raté de toute manière. Mais au lieu de se faire faire du poivre de Cayenne là, ou du taser, là, on pourrait demander à Dani de nous faire passer un test de mensonge.
On pourrait le faire.
Ça pourrait être vraiment cocasse. Eh oui.
On est tous persuadés. Je pense que tout le monde est persuadé qu'il serait capable de bien mentir.
Ben moi, je mens pas bien, mais je sais que je suis honnête dans la vie. Fait que les chances que tu me pognes sur quelque chose...
T'as-tu toujours été honnête?
Ben je pense que t'es pas toujours 100% honnête. Là. Ça, okay. je pourrais te dire oui parce que vite comme ça, je me considère comme très honnête, okay. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, j'ai failli. Là.
Donc, qu'est-ce que tu vas dire au test de détecteur de mensonges?
Ben je vais dire non.
OK.
Ben là...
Est-ce que t'as déjà commis un vol?
Non. Oui!
Bon. On va aller en musique! Avant de trop en savoir sur Audrey, comme d'habitude, Soldier et Jay Scott avec Grand Frère sur Boulevard. J'ai bravé la tempête.
Il a ta affaire en troisième et a trouvé le moyen de gagner 6-5. Retour à Québec ce mercredi face au Drakkar de Baie-Comeau.
Bienvenue dans l'Open Mic. Avec Marceau et Audrey Pinchot. Boulevard 102-1.
C'est vrai que les remparts ont été spectaculaires en fin de semaine. Prochain match, c'est mercredi. Mais d'ici là, moi, je peux vous parler des remparts parce que la soirée Boulevard qui s'en vient au Centre Vidéotron, c'est le vendredi 14 mars prochain. On va être une maudite gang. Tous les animateurs qui vont être sur place, on a des billets à faire tirer cette semaine pour être dans la même section que nous autres. Les remparts qui vont affronter à ce moment-là les Saguenayens de Chicoutimi. Le match va débuter à 19h. Il y a la squad Boulevard qui va être là avec le spin de vinyle pour faire gagner des prix et remettre des cadeaux. Il va y avoir une performance d'après-match aussi. C'est Véro qui a tout organisé ça. Elle a invité le groupe Cain, je pense.
C'est malade.
Ouais.
Ça va être bon. On connaît toutes leurs tunes.
Ben oui, ça va être dans le hall principal. Donc, on va aller prendre une bière avec tous les auditeurs et tous les partisans des remparts qui vont être là après le match. Donc, c'est encore le temps d'acheter vos billets pour le match de Boulevard 102.1 le 14 mars prochain à 19h au rempart. Même prix que d'habitude, ticketmaster.ca. J'ai 4 billets actuellement pour le match de Boulevard au rempart. Du 14 mars. T'as-tu la question?
Bien, si les gens t'ont bien écouté, j'aimerais savoir qui affronte les remparts lors de cette soirée Boulevard.
C'est un peu facile.
Ben oui, c'est facile. Le but, c'est de donner ça à tout le monde, aux auditeurs qu'on aime et qu'on veut voir là-bas.
418-971-1021, 418-971-1021. Répondez à la question d'Audrey par texto.
Boulevard 102.1 vous accompagne quotidiennement.
10h42, je pense qu'on peut appeler ça des retrouvailles. J'ai l'impression que ça fait 6 mois qu'on ne l'a pas vu. Dani Morissette, notre ex-enquêteur à la Sûreté du Québec au crime majeur qui est en studio avec nous autres. T'es en train de se parler d'histoire de police. Salut Dani!
Hey, salut! Vous deux, ça clique. Je veux dire, ça file.
Toudoum!
Ça va super bien.
C'est facile.
On s'est-tu reparlé depuis que t'as trouvé des trucs sur mon grand-père?
On s'est reparlé une fois.
On s'est reparlé en ondes, je sais pas. En tout cas, bref, je vais le refaire. Un gros merci parce que j'ai redistribué la fiche de policier de mon grand-père à toute ma famille, mes cousins qui n'avaient jamais vu de preuve, tu sais, comme quoi notre grand-père était bel et bien de police parce que moi, je l'avais pas vu en uniforme totalement. Tu sais, moi, je me souviens qu'il était tout le temps sapé comme un prince, toute la belle coiffure par en arrière, chemise, cravate et tout ça. Mais je me souvenais pas, parce qu'on était jeunes à l'époque, je me souvenais pas de mon grand-père habillé en policier.
Ben écoute, ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur. Ah. Puis sincèrement, je t'avais dit que ça allait être facile, mais ça a vraiment pas été facile parce que...
Faut-tu retournes dans les archives?
Ben, j'ai fait appel avec la Sûreté du Québec, avec notre syndicat, avec, à un moment donné, à Nicolette.
Ouais.
Puis à toutes les fois, il n'y avait rien. Puis à un moment donné, j'ai reçu ma badge de retraité et là, je me suis dit, ben voyons donc, pourquoi je n'ai pas pensé à ça avant? Donc, j'ai appelé l'Association des retraités, puis c'est eux qui ont fait
la
fameuse notice, là. Puis ils en ont fait plus que moins, je trouve.
Mais y a-t-il une genre de ligue du vieux poil d'un policier? Parce que, tu sais, il y avait un commentaire sur mon grand-père. Ah, je l'ai connu, il était tout le temps bien peigné, il était très fier d'être policier, tout ça. C'est-tu des anciens qui partagent constamment ces informations-là?
Alors, on a un groupe privé qui est l'Association des policiers retraités du Québec. Ouais. Puis on discute là-dessus. Puis lorsqu'il y a une personne qui décède, c'est affiché à cet endroit-là. Mmh. Lorsqu'il y a une nouveauté quelconque.
Jugez-vous le travail des policiers actuels?
Pas sur ce site-là, mais il y en a d'autres, oui.
Il y a des groupes plus privés.
Ça, c'est quand tu croises au Tim Hortons, ils sont dans l'œil du vieux poids, ils sont assis, les gars, là, puis là, ils parlent de tout ce qui arrive aujourd'hui. Ah, ben c'est le fun de t'avoir avec nous autres en studio, puis un gros merci pour ça. Tu nous as, toute la famille, Marceau est très, très contente là, de ce que tu nous as envoyé comme information.
Ben merci.
On était très heureux, ça a fait du bien de revoir le vieux Pops. Hey, Danny Morissette, aujourd'hui, on parle de Godass, qui fait l'actualité déjà depuis quelques jours. Il y a un dossier spécial dans les journaux de Québécois. Godass Gagné qui semble avoir eu tellement d'informations à donner qui a mis en place le projet pour faire tomber Maurice Mombouché. Mm-hmm. Puis ce matin, on nous a parlé que Godass a dû passer un test de détecteur de mensonges.
Oui, un polygraphe.
Ça, t'en as-tu déjà passé un pour la police, la Sûreté du Québec, toi?
Moi, j'en ai jamais passé, parce que je suis pas formé pour être polygraphiste.
Mais c'était pas un passage obligé à la Sûreté du Québec, parce que la GRC, moi je savais, quand j'avais envoyé tous mes trucs d'école et tout ça pour la GRC, on m'avait informé que si j'embarquais dans le processus, il allait avoir un test de polygraphe, puis il y avait aussi une enquête, je sais pas comment il l'appelait. Là.
Les enquêtes de bonne mœurs, c'est enquête de recrue.
C'est ça, sur ma famille, sur mes voisins et tout ça, puis là, quand ils ont commencé à dire mes voisins, ils me disaient, ah, c'est là que je suis cuit, fait que j'ai pas...
Je passe ma tondeuse à 7h le matin, le samedi, ils triperont pas, là.
Mais je pensais que c'était pour la Sûreté du Québec aussi.
À la Sûreté du Québec, à l'époque où c'est que j'ai appliqué, le test de polygraphiste n'était pas en place.
Obligatoire, OK.
Ouais. On avait les enquêtes de bonne mœurs où ce qu'allaient voir nos anciennes conjointes. C'était souvent moi ce qui me faisait le plus peur là,
ouais.
À ce moment-là. Puis aller voir nos employeurs.
Il y en avait beaucoup dans ton cas, une cinquantaine?
En tout cas, il y en avait une en particulier que je me disais, si jamais je passe pas, je le sais, c'est à cause de quoi.
Ouais.
Bien, au contraire, elle était très correcte.
Ouais.
Mais non, les tests de polygraphiste, à la GRC, ça a toujours existé de ma souvenance, mais à la SQ, maintenant, je crois qu'ils en font passer, puis dans certains corps de police, mais c'est pas partout. C'est pas,
ça, Danny, mettons, là, t'sais, au lieu du projet Taser puis du projet Poivre de Cayenne, on pourrait pas faire ça. Moi, j'ai repensé à ça, le Poivre de Cayenne, dans ma face, là, puis je suis plus sûr.
Non.
Écoute, tu veux pas ça, là, le Poivre de Cayenne. On en a parlé l'autre fois, puis j'ai fait des démarches. J'en ai parlé avec Yann. Ça allait bien, les démarches, puis... sans parler du corps de police en question, c'était pratiquement autorisé, mais malheureusement, il est arrivé un événement, pas plus tard que la semaine passée, qui a fait en sorte que, pour des questions de sécurité, puis de fuite d'informations, puis surtout...
Ça sera pas permis.
C'est ça. Un exemple là, qu'on peut donner, là, que le monde va comprendre, c'est advenant le cas, puis ça, écoute, il n'y a même pas 1% de chance que ça arrive, que quelqu'un se fait taiser, un animateur, puis qu'il subit un malaise après. Bon, ben là, au niveau de la responsabilité,
exact.
Qu'est-ce qui
ça
arrive?
Ça fait du sens.
C'est ça.
Mais trop fort, casse pas, comme on dit. Je suis allé jusqu'au fond des choses, puis pas assez proche, mais malheureusement,
ça
j'ai
failli.
Danny Morissette, t'es un ex-policier de la Sûreté du Québec. T'as été au crime majeur. T'as rencontré des gens qui ont tué des gens.
Mm-hmm.
Est-ce qu'ils ont un profil? Tu sais, quand toi, là, tu jasais avec ces gens-là, quand tu devais les accompagner, est-ce qu'ils ont un regard différent, ces tueurs-là? Est-ce que tu as l'impression que ces gens-là pourraient peut-être un jour être repentants ou tu as vraiment l'impression de rencontrer des gens qui sont sans émotion?
La majorité, tu as l'impression qu'ils sont sans émotion, mais je peux pas, j'ai pas la prétention de dire que je les ai tous rencontrés. C'est pas vrai, là. T'es Godass Gagné, Frédéric Silva, je les ai pas rencontrés. J'ai rencontré Gérald Galland. Cependant...
Gérald Galland, c'est quand même le tueur à gages le plus prolifique qu'on ait connu. Là,
absolument,
jusqu'à
oui.
maintenant.
Mais c'est des gens avec qui tu peux discuter. C'est pas nécessairement des gens... Un peu, j'écoutais hier, tout le monde en parle avec la famille Alexandre Bissonnette,
ouais.
qui ont des problèmes de santé mentale puis qui commettent des crimes suite à ces problèmes-là. C'est vraiment une question de business, c'est une question d'argent. Puis ils le disent. Puis souvent, le point commun avec tous ces individus-là, lorsqu'on les rencontre, ils disent tout le temps la même chose, c'est « j'aurais donc bien pas dû embarquer dans cette gang-là » parce qu'ils réalisent que tôt ou tard, ils ont beaucoup plus d'ennemis que d'amis là-dedans, puis ils peuvent pas faire confiance à personne. Tu rencontres un délateur aujourd'hui, tu rencontres un criminel provenant du crime organisé, ils disent toute la même affaire. Ils se font trahir par leurs propres amis, tôt ou tard, puis ils peuvent pas sortir vraiment du milieu.
Le délateur, c'est l'ancien criminel qui va donner de l'information aux policiers pour essayer d'aider d'enfermer les plus pourris, c'est ça?
Ouais. Ben, en fait, On peut parler un peu de terminologie là, très rapide, parce que même des fois, les policiers, on se mêle là-dedans. Je vous ai fait un petit travail. En fait, vous m'avez fait travailler pas mal hier. Je me suis amusé à regarder les 6 plus grands délateurs. J'ai fait des comparatifs. Je me suis amusé avec ça. Mais je pense que pour bien débuter, c'est important de connaître un peu c'est quoi la différence entre un informateur, un délateur, un agent civil d'infiltration, un témoin repenti. Je veux dire, il y a tellement de noms, mais il y a des distinctions. Un délateur, là, à la base, c'est quelqu'un qui a commis des crimes. OK? C'est pas, un informateur n'a pas nécessairement commis des crimes. Mais un délateur, qu'on appelle également témoin repenti, c'est la même chose. C'est des personnes qui ont été reconnues coupables d'une infraction criminelle puis qu'à un moment donné, acceptent de donner de l'information à la police contre une rémunération monétaire.
C'était le cas de Godas.
C'était le cas de Godas, c'est le cas de Frédéric Silva, c'est le cas de d'autres qu'on va parler. Mais ça, les délateurs, je vous dirais que c'est la protection des témoins qu'on appelle qui s'occupe d'eux. C'est vraiment des enquêteurs spécialisés. C'est une boîte à Montréal. Et puis, eux s'occupent d'eux autres, de leur sécurité, des logés dans un endroit secret qu'évidemment, je ne peux pas mentionner. On s'entend, ce n'est pas dans un hôtel parce qu'il y a des risques d'évasion et il y a des risques que ces personnes-là, suite à leur délation, se fassent descendre. On s'entend? Donc, en gros, un délateur, c'est très, très rare, mais c'est un peu la définition des délateurs. Où est-ce que je suis plus à l'aise? C'est au niveau des informateurs, qu'on appelle également les sources. Dans le milieu criminel, ils vont appeler ça des snitchs, des mouchards. Ça, c'est des gens qui donnent de l'information, qui font souvent partie du milieu, on va dire, de bas de gamme, soit des trafiquants de stupéfiants, des consommateurs, qui vont nous aider à résoudre certains dossiers, à faire progresser les enquêtes, particulièrement en matière de stupéfiants. Mais ça peut être également... Un exemple, une madame qui se balance, j'en avais une source, c'était carrément ça. La madame habitait dans un village X, elle tricotait sur son balcon, mais elle maudit qu'elle voyait des affaires. elle aimait la police, donc à toutes les fois, elle nous appelait pour dire « j'ai vu tel véhicule », tout ça. Puis là, à un moment donné, oh, elle rajoutait les plaques, oh, elle rajoutait la description du monde. Excellente informatrice. Mais on s'entête, elle n'est pas dans un milieu criminel du tout.
Mais quand c'est le cas, mettons, de vendre de drogue, j'imagine qu'ils font ça pour une raison, là, pour se sauver le derrière, quelque chose?
Ben oui, parce qu'il y a différentes motivations à devenir informateur et délateur. Quand on parle des informateurs, souvent, les motivations, ça peut être, je l'entends souvent, moi, quand j'étais jeune, je rêvais d'être policier, mais je n'avais pas les notes, j'avais des problèmes de santé, je n'avais pas la vue. Il y en a aussi... qu'à un moment donné, ils se mettent à croire en Jésus, qui ont des remords de conscience suite aux crimes qu'ils ont commis dans le passé et puis qui décident aujourd'hui de passer à l'action, puis à ce moment-là, de nous transmettre de l'information. T'en as d'autres, et je vous dirais, c'est drôle à dire, mais c'est nos meilleurs, ceux-là. Ils vont se servir de nous autres pour éliminer la concurrence. Autrement dit, ils vendent dans tel secteur, et puis à un moment donné, ils ont de la pression d'un autre groupe qui veulent avoir leur territoire. À ce moment-là, ils vont nous transmettre de l'information pour qu'on puisse les arrêter, pour qu'on puisse faire des perquisitions pour les effacer de la map. Ça, il y a de la vengeance aussi. Deux personnes qui s'entendent bien ensemble, à un moment donné, décident de se séparer pour une raison X au niveau de la business qu'on parle, et là, un décide... de planter l'autre en parlant
Mais ça, vous êtes au fait de ça, là? Qui est contre qui? Pourquoi les gens vont vous voir pour vous donner l'information? Vous le savez que souvent, il y en a un qui va venir vous voir pour éliminer la concurrence de l'autre bord.
On pose toujours la question.
Ben oui. Et est-ce qu'ils vous répondent honnêtement?
Oui, oui, oui. Mais ils n'ont pas le choix parce que quand on contrôle un informateur, le mot « contrôler » est super important. L'informateur n'a pas à nous dire « Danny, je veux te rencontrer à tel endroit. » Non, non, c'est moi qui va dire l'endroit. « Danny, je suis disponible à telle heure. » Non, non, attends un peu. C'est moi qui va te dire telle heure. Puis, il y a des raisons là-dedans, dont une qui est super importante, qui est une raison de sécurité. Un exemple, l'informateur, aucune crédibilité, aucune fiabilité. On commence à travailler avec lui, donc on le laissait. Et puis, il nous dit « Je veux te rencontrer à tel hôtel à telle heure. » Ben écoute, non, non, on n'ira pas à cet hôtel-là. Ou si c'est nous, admettons, qui disons, on veut te rencontrer en arrière du McDonald's, à telle place. Souvent, moi, ce que je faisais, c'est qu'on faisait ce qu'on appelle une passe un peu avant. On a regardé voir effectivement si le gars était là, s'il était seul. Parce qu'on s'entend, on ne veut pas se faire de l'entrapment. On ne veut pas se faire accueillir par 5-6 bandits avec des armes à feu. Puis là, à ce moment-là, à la dernière minute, je changeais l'endroit juste pour les déstabiliser.
OK.
Ça, c'est des petites techniques là, basiques d'enquête. Là.
Mais là, j'imagine que vous ne pouvez pas prendre pour acquis que cette information-là est toujours bonne. Il y en a qui doivent essayer de brouiller des pistes. Tu sais, d'un matin, il y en a sûrement qui sont malfaisants. Là. Je me dis, il y en a partout. Là. Fait qu'il y en a sûrement des clinclins qui appellent la police pour donner des mauvaises informations. Là.
Absolument. C'est pas parce que quelqu'un appelle pour dire qu'il veut nous donner des informations sur tel sujet que nécessairement va devenir informateur. Si, je fais souvent un exemple, t'sais, nous, il y a deux critères essentiels pour évaluer un informateur. On a la crédibilité de l'informateur et la fiabilité. Il y a d'autres critères qui sont moindre inclus là-dedans. Mais un exemple, quelqu'un qui arrive devant moi, il n'y a pas de dents dans la bouche, il est sur la méthamphétamine, il est magané de la vie. Ce gars-là, au niveau de la crédibilité, zéro open bar quand on le regarde. Mais au niveau de la fiabilité, le gars est dans le milieu, il est implanté dans le milieu, il consomme à côté, il connaît, tu sais, il a accès à des informations qu'à moins d'avoir des agents doubles ou de la filature, tout ça, on n'est pas en mesure d'avoir. Donc, crédibilité zéro, mais fiabilité est important. En contrepartie, on a quelqu'un qui arrive, chemise, veston, cravate, vient nous voir, dit « Danny, je veux te parler de fraude qui a à tel endroit dans tel village. » Crédibilité, 10 sur 10, le gars, il a une belle job, il paraît très bien, tout ça, il parle bien. Mais au niveau de la fiabilité, finalement, c'est parce qu'il a pogné ça d'un nouvel ou c'est quelqu'un de quelqu'un d'un autre qui a dit cette information-là, fiabilité zéro. Mmh. Donc, et là, on en vient à comment coder un informateur.
Ouais.
Et là, on rentre dans des techniques.
OK, mais c'est franchement intéressant. Puis est-ce que c'est ça qui est arrivé à un moment donné, c'est de l'information des informateurs? Il y a de ça quelques mois, bon, il y avait la guerre entre les Hells Angels puis le Blood Family Mafia qui mm-hmm. faisait rage. Je ne sais pas si ça correspond avec le meurtre de Dunne Guérin, mais quelques jours plus tard ou quelques heures plus tard, il y a des flics d'un peu partout au Québec qui sont descendus à Québec puis qui ont fait le tour des établissements où il y avait de l'alcool, puis on ciblait des individus, puis il y a eu énormément d'arrestations, Danny. C'est probablement parce que les Hells ont décidé de parler là, pour dire, regarde, ils se retrouvent à telle adresse, c'est là qu'il est, puis c'est sûr qu'ils ont eu de l'information...
Écoute, je te donne...
Tu me regardes avec un beau sourire. Là.
Ben, parce que j'ai participé à cette opération-là.
OK.
Donc, je te donne 10 sur 10 sur la question, okay. Mais 0 sur 10 sur le résultat, parce que malheureusement, je ne peux pas en parler.
C'est correct. Parce que moi, je n'avais pas d'informations à ce niveau-là, mais je me suis dit...
C'est une réduction qui fait du sens.
La rapidité de frappe des policiers du Québec qui sont tous descendus ici puis qui ont été capables de trouver les adresses des gars puis où est-ce qu'ils étaient, c'est parce qu'il y avait de l'information directement sur le terrain.
Là. C'est certain que Michel Guérin, Dunne Guérin, c'est un personnage très connu dans la ville de Québec qui contrôlait énormément de territoires et qui avait toujours des liens avec les Hells. Puis qui avait son gym, etc., puis qui roulait sur l'or dans des restaurants très, très luxueux. Donc, à partir de l'instant où cet individu-là, qui était vraiment important, on va dire, au niveau de la relation, c'est une relation, en fait, lui, au niveau des achats, c'est certain qu'on a l'obligation d'agir. Et il y a une partie qu'on appelle l'aspect visibilité, c'est-à-dire, regarde, on est capable, nous autres, du jour au lendemain, de faire descendre des gars de Montréal, des gars reliés, des enquêteurs qui sont spécialisés en crime organisé.
En gang, oui.
En gang, on va faire le tour de tous les établissements.
Il n'y avait pas de tête de comptable là-dedans. Dans ceux que j'ai vus, il y avait de l'air comme de monsieur là, qui était un peu méchant, qui sortait des cavernes.
Oui, on était en mission, effectivement. Puis tu sais, on rentrait dans un bar, on allait voir le tenancier, on expliquait les raisons, mais on identifiait la majorité du monde qui avait dans un bar.
Payez-vous les délateurs?
Absolument. Absolument.
Pourquoi? Hein? Parce qu'on dirait que, comme simple citoyenne, je me dis, c'est vous autres presque qui leur rendez service en réduisant les peines, en les protégeant. Puis quand même, il y a des gros montants qui sont déboursés pour leurs services.
Bien, effectivement, quand on parle de Frédéric Silva, 3 millions. 3 millions. Là, vous allez me dire, ouais, mais Danny, ça n'a pas de maudit bon sens. 3 millions de dollars pour un bandit qui a tué du monde puis qui a fait des tentatives.
Puis c'est juste 3 ans qu'il est délateur.
Depuis 2022.
2022, OK.
Oui, on est allé chercher en hélicoptère, lui, au centre de réception correctionnelle à Saint-Anne-des-Plaines. Un beau dossier de... Je pense qu'il est rendu inspecteur-chef, là, Benoît Dubé. Et puis, c'est probablement le délateur le plus important suite à Godasse Gagné puis Gérald Galland. Vous allez me dire, Danny, ouais, ça n'a pas d'aller 3 millions. T'sais, on pourrait s'en faire des choses avec 3 millions, réparer des rues. Ouais.
Mais surtout que ces gars-là, ils ne toucheront pas nécessairement cet argent-là parce qu'ils ne reverront plus le jour. Là.
Mais, tu sais, il y a deux écoles de pensée. Oui, c'est beaucoup d'argent. Moi, je suis le premier à le dire, c'est énormément d'argent. C'est un record. Mais si vous pensez un peu policier, lui, là, on parle de Fred Silva, là. Il est en train de résoudre actuellement, on parle d'une soixantaine de dossiers de complots de meurtre, dont 10 meurtres. Il passe à la table. Et puis, si on fait un calcul, dans le crime organisé, là, je ne parle pas d'un meurtre où c'est que l'homme a un couteau plein de sang et qui dit « qu'est-ce que je viens de faire là? J'ai tué ma femme. » Ça ne coûte rien, ça, ce genre de dossier-là, parce qu'on a la preuve, on a des... Tu sais, je veux dire, c'est très, très clair. En matière de crime organisé, c'est tellement restreint, c'est tellement de l'information qu'on a de la difficulté à obtenir, à moins d'utiliser des techniques d'enquête comme la filature, l'écoute électronique, et qui demande énormément de temps homme, parce qu'un dossier de meurtre, on ne ferme jamais ça.
Donc, le 3 millions qu'on y a donné aurait peut-être coûté 15, 20, 30 voilà. millions pour élucider ces meurtres-là. Okay.
C'est 100 000 piastres par meurtre lié au crime organisé, au niveau main-d'œuvre en matière d'enquêteur, en matière de technique d'enquête. L'écoute électronique, c'est pas gratuit. Donc, si vous faites le calcul, je pense qu'on rentre malgré tout dans l'argent. Il n'y a pas juste ça, tu sais, il y a des raisons pour lesquelles on paye 3 millions de l'individu. Non seulement délateur, je ne peux pas appeler ça une technique d'enquête, mais on en a vraiment de besoin parce que ça nous permet d'atteindre des têtes dirigeantes qu'en temps normal, on ne serait pas en mesure ou on aurait beaucoup de difficultés d'obtenir. Mais ça nous permet de résoudre des dossiers. Ça nous permet également, tu sais, cet argent-là, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Bien, il y a la protection du délateur et sa famille. Ça va inclure possiblement un changement d'identité. C'est lui qui le décide, mais habituellement, il l'accepte. Ça va un changement de pays, souvent. Le logement...
Fait comment ça marche, votre collaboration, à ce moment-là? Je veux dire, est-ce que c'est juste vous qui commandez des grandes interviews parce que vous cherchez des informations? C'est lui qui se doit de vous fournir de l'information de façon sporadique? Comment ça marche?
Bien, il y a deux façons de procéder. Nous, c'est certain qu'on va aller voir certaines personnes... très haut placé au niveau du crime organisé. Et à l'occasion, quand on sait qu'ils sont vraiment mal pris, on va lui offrir le choix de devenir délateur. Je ne cacherai pas que 99 % du temps, ils vont dire non. Le 1 % où ce qu'ils vont te rappeler, et c'est là qu'à un moment donné, ça paye, c'est lorsque le délateur, le futur délateur, est accolé au pied du mur et que là, il risque, il a peur pour sa vie, il a peur pour ses proches, il a peur de se faire passer. Là, à ce moment-là, c'est drôle, mais la police, ça devient vraiment intéressante pour lui.
Puis vous êtes sûr qu'il ne vous bullshit pas, il n'y a pas de mauvaises informations qui se passent? Parce que moi, je me mets à la place d'un criminel. Là. Tu me donnes 3 millions, là, puis tu me dis fournis-moi de l'information. Je peux te fournir n'importe quoi. Là.
Mais 3 millions, justement, ça va jusqu'au procès et après le procès. Le 3 millions n'est pas donné la première journée.
C'est payé par tranche.
Et c'est payé par tranche.
Par information.
T'sais, ça peut être la cantine aussi qui vont payer, la roulotte dans les services correctionnels.
Mais souvent, ça sert. Ce que j'ai lu, c'est que ça servait beaucoup à relocaliser la famille de l'individu qui est rendu délateur. Parce qu'il faut que tu la protèges, cette famille-là.
Absolument.
L'argent, est-ce qu'elle vient nécessairement du public ou ça provient de descentes que les policiers ont fait où on est tombé sur des sommes d'argent astronomiques? Est-ce qu'on met ça dans un compte puis on prend cet argent-là pour payer les délateurs?
Non. Nous autres, la façon que ça fonctionne, je parlais tantôt de la protection des témoins repentis, qui est une escouade avec des enquêteurs spécialisés qui s'occupent, puis je vais pas oublier ta question, Audrey, qui s'occupent de ces délateurs-là. Un, pour s'assurer de la vérité, de vraiment s'assurer qu'ils nous donnent la bonne information, on passe du temps avec eux autres. Puis l'information qu'ils nous transmettent, on la valide. On a déjà des enquêtes. Les dossiers sont déjà ouverts là-dessus. Donc, on va le savoir s'ils nous bullshit. On parlait de polygraphie tantôt. Ils vont passer des tests de polygraphie également. Même si le test polygraphique n'est pas admissible en cours pour preuve. Vous me suivez? Et pour revenir à ta question, c'est qui était...
Les descentes de police quand...
Ah oui. L'argent.
Parce que la Ville de Québec, je sais que s'ils font une perquisition, il y a un certain montant qui va au service de police de la Ville de Québec pour lutter contre le crime. Mm-hmm. Puis il y a d'autres montants qui vont, exemple, aux victimes ou les associations de victimes.
Exact.
Ou pour ce qui est de l'aide psychologique et tout ça, de ce que je comprends.
Oui. Au niveau de l'argent, où est-ce qu'on la récupère, ce fameux 3 millions-là, c'est qui le paye en bout de ligne, dans le fond? Là? C'est qu'à un moment donné, une fois qu'on a un bon délateur, il y a des ententes, il y a des comités avec le gouvernement, le ministère de la Sécurité publique. Ils se rendent compte à ce moment-là, ils disent, regarde, on a un bon délateur, il va nous donner tant de crimes éventuellement. Et là, ils vont déterminer ensemble le montant octroyé à ce délateur-là. Maintenant, à savoir, est-ce qu'on va prendre l'argent qu'on a récupéré de perquisitions de produits de la criminalité, de biens infractionnels, pour les payer? Je ne suis pas en mesure de m'avancer à ce niveau-là. Mais chose certaine, c'est que cet argent-là, en bout de ligne, moi, vous, c'est les contribuables qui vont payer, qui vont payer pour ça.
Ouais. Est-ce qu'on sait pourquoi? Est-ce que Godas Gagné a mentionné pourquoi Mom voulait déstabiliser le système judiciaire? Pourquoi il voulait faire peur aux policiers? Pourquoi il a descendu Diane Lavigne? Il a fait descendre Diane Lavigne?
Oui, et puis Pierre Rondeau, le projet Larron qu'on appelle. Je ne sais pas si... il faudrait demander à Robert Pigeon, mon ancien boss, justement, au crime majeur.
Qui est un ancien chef de police à Québec. Là.
Exactement, qui est tout qu'un monsieur. Là. Mais en fait, je ne sais pas si Godasse en a parlé, mais on le sait pourquoi Mme Boucher a décidé du jour au lendemain de s'attaquer aux gardiens de prison. Éventuellement, il voulait s'attaquer à la couronne, à Mme l'honorable Franche Charbonneau, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à deux reprises. Et il voulait également s'attaquer à des policiers et à des juges. Et c'est pas nécessairement, oui, il y avait l'aspect déstabiliser le système judiciaire, démontrer que les moteurs criminalisés sont plus forts que tout le système en question. Mais il voulait également passer un message à sa gang et lui dire, regarde, moi, Mme Boucher, les nomades de Montréal, etc., et ma gang, si on est capable de s'attaquer à des policiers, à des agents correctionnels, à des juges, c'est qu'on est capable de s'attaquer également à ceux qui vont nous dénoncer. Donc, il voulait instaurer un climat de peur à l'interne pour lui dire jusqu'à quel point il est prêt à aller loin à ce niveau-là.
Quand même assez particulier parce que c'est ce qui a causé sa perte. Là, parce que là, Mom Boucher, bon, on savait que c'était le chef des nomades. Il était perçu comme étant le chef des Hells Angels au Québec alors qu'il ne l'aurait jamais été, de ce qu'on comprend. Là.
Bien, de la manière ça fonctionne là, au niveau des Hells, c'est que sont indépendants. Il y a 5 chapitres.
Ouais.
Et puis, c'est sûr qu'ils travaillent ensemble, là, mais chaque chapitre fait ses propres affaires, a son propre territoire. Lui, il était nomade. Ça le dit, nomade, il se promenait. Il était situé à Montréal. C'était un ancien rocker, etc., qui a gravi les échelons. Mais lui, il s'est autoproclamé chef des Hells, puis les médias...
Ça a été une erreur parce que les gens se sont intéressés à lui, puis encore plus quand tu t'attaques au système, là, c'est le système qui va s'intéresser à toi pour t'anéantir. On a, à Québec, on a Gamache qui est là, qui emmène large. À Montréal, on a Martin Robert qui emmène large aussi, mais jamais ces gens-là vont s'autoproclamer chef des Hells Angels au Québec. Là.
Non, mais c'est également un peu, comme tu dis, ce qui a causé sa perte. Ouais. Mom Boucher, lui, il aimait les caméras. Rappelez-vous, là...
Sa sortie du palais de justice.
Sa sortie du palais de justice, puis moi, j'oublierai jamais le combat Dave Hilton, Stéphane Ouellet, ceux qui se rappellent. Il était acclamé comme un héros quand il est sorti de prison après son premier procès. Je veux dire, lui, il carburait à ça. C'est un sociopathe. Et aujourd'hui, tu parles avec les moteurs, bien, de toute façon, il a été renié. Et puis, il est décédé à l'intérieur des murs d'un cancer. Il n'a jamais voulu se faire soigner, ce gars-là. Puis à ses funérailles, il n'y a pas de patchés qui sont allés, là. Donc, ça vous donne une idée à quel point, à un moment donné, peu importe où ce que tu es dans l'organisation, peu importe le succès que tu as, ça finit rarement bien dans ce milieu-là.
Qu'est-ce que ça prend pour être un agent civil? C'est une question qui a été posée sur mon Messenger. Quelqu'un qui écoute Danny Morissette, qui est un ex-policier à la Sûreté du Québec au crime majeur, quelqu'un qui dit « Moi, je veux de l'information, j'aimerais ça être agent civil. » C'est quoi le processus d'embauche pour être agent civil?
Tu vois, c'est un peu... c'est bien, la question est intéressante parce que les OCI, qu'on appelle les agents civils d'infiltration, il y a d'autres terminologies également là-dedans. Ça, c'est un autre groupe d'individus qui va au-delà des délateurs et des informateurs. C'est des agents sources, ou on appelle également ça un agent de l'État. C'est probablement pour devenir OCI. Un OCI, là, c'est une méthode d'enquête très, très forte qui va être utilisée en particulier par l'ENERCO, l'Escouade nationale de répression sur le crime organisé. C'est pas des policiers, mais c'est des criminels ou des personnes qui sont vraiment impliquées dans le milieu qui, du jour au lendemain, vont signer une entente avec l'État. J'essaie vraiment de le vulgariser au maximum pour devenir un agent double. et travailler.
Okay, fait que c'est pas moi demain matin qui a le goût de faire ça puis qui demande à être agente civile.
Je t'avais pas stoulé, là, mais c'est elle, effectivement, qui m'a demandé sur son, Messenger de te poser la question.
Ben, écoute, Audrey, je vais te répondre à ce moment-là. Je penserais pas. À moins qu'on ait un dossier, je sais pas, comme hôtesse de l'air, vu que t'es grande et puis avec. À ce moment-là, peut-être tu pourrais être intéressante.
Mais c'est des criminels.
Mais oui, c'est ça. C'est des criminels. Ça, ils proviennent du milieu criminel. Puis ils ont un contrat avec la police pour une période, puis ils ont une rémunération également établie. C'est quand même très, très dangereux, on s'entend. Un agent civil d'information, souvent, ils vont recueillir de la preuve pour la police. Donc, ils vont être, on appelle ça des body packs. Ils vont avoir des micros sur eux, souvent. Et puis là, ben regarde, c'est le thrill. Peut-être que lui, ça l'intéresse à cause du thrill.
Mais ça, Danny, là, les histoires de body pack et tout ça, on n'est pas rendu à d'autres choses comme technologie. Parce que, tu sais, quand on regarde, moi, j'ai appris comment c'était la mafia quand je regardais des films sur la mafia. J'ai appris ce que c'était que les motards quand je regardais des films avec les motards. Tu sais, ils sont tout le temps en train de se faire fouiller. Tu sais, les body packs, là, est-ce que techniquement, il y a une couple qui doit se faire découvrir? Là?
Écoute, c'est parce que les gens ils regardent des films et ils s'imaginent qu'un body pack, écoute, c'est gros comme une veste par balle. Là. Moi, je vous dirais, là, un body pack, ça peut être un micro gros comme une pointe d'ongle. Mais je veux pas trop rentrer dans les détails, mais on en est rendu là.
OK.
Mais c'est certain que les... Oui, on se promet. Mais oui, j'ai connu effectivement les affaires que je me disais.
C'est 44 avec qui tu avais parlé, Yann, ouais. Qui avait dit que lui avait failli se faire pointer, tu comprends, direct sur le micro, puis ça aurait pu finir là.
Exact, c'était avec le gars de Trois-Rivières.
Raymond
Desfossés, qui emmenait extrêmement large là, au niveau de l'importation de cocaïne. Puis lui avait réussi à rencontrer Raymond Desfossés. Puis à un moment donné, il y avait un body pack, c'était entendu avec les policiers qui allaient rencontrer Raymond Desfossés. Puis Raymond, il tapait sa poitrine en disant « Moi, les flics peuvent rien contre moi. » Puis il tapait sa poitrine, mais à un pouce du micro.
Faut que tu gardes ton sang-froid, c'est un méchant temps.
Je ne sais pas s'il y avait une couche, là, mais moi, c'est sûr que j'aurais fait là.
Ben, tu vois, ça, c'est un critère qu'on va évaluer pour un ECI pour répondre à la question de l'auditeur. Là. Effectivement, ça prend quelqu'un qui a un sang-froid, ça prend quelqu'un qui est loyal, hein, qui ne trahira pas, surtout.
Ça peut être un grand émotif. Là.
Est-ce que ces gens-là pensent au après? Parce qu'une fois que tu vas témoigner, là, Raymond Desfossés avait vu qu'il était C40. C'est C41 ou C44? Je me rappelle.
C'était 44.
Tu sais, Raymond Desfossés, il savait là, que c'était... un de ses chums qui était en train de témoigner, un de ses chums entre guillemets, okay, ouais. Qui était devenu agent source. Mm-hmm. Fait que ça, après, comment tu peux avoir une vie convenable? Là? Lui, il est obligé de partir dans un autre pays, là, C44.
C'est souvent le cas, oui, effectivement. Sauf que lorsque, peu importe que ce soit un ECI ou un agent double de la Sûreté du Québec, souvent, effectivement, on va fonctionner avec des codes et puis ils vont témoigner sous paravent. Et parfois, on va changer également les voix pour maximiser leur protection. Mais oui, ça fait partie, comme on dit, des risques du métier, autant pour un agent civil d'infiltration qu'un agent double.
Tu sais, pour avoir rencontré Alex Kane, là, il n'y avait plus de qualité de vie là, quand je l'ai rencontré. Je ne sais même pas s'il était encore en vie, Alex Kane. Là. Mais j'ai rencontré il y a 10 ans.
Le replacer?
Écoute, c'est un gars qui était un agent d'infiltration pour contre la mafia, de toutes les mafias possibles. Mmh. Il était en Amérique du Sud. Il est encore en vie. Il a fait de l'infiltration pour contrer les Mongols aux États-Unis qui sont extrêmement agressifs. Là,
Il a eu ses patchs.
Ce qu'il détestait, là, c'est quand il dormait. Parce que c'était la seule chose qu'il contrôlait pas. Quand il dormait, il parlait. Fait qu'il avait peur que quelqu'un soit à côté de lui pendant qu'il était en train de dire la vérité sur sa vie, comme quoi que c'est un agent d'autre.
Ouais. Ouais.
Mais il a écrit un excellent livre,
d'ailleurs. Il n'y a plus de qualité de vie. Là. Moi, je l'ai vu. Là. Écoute, il est 5 pieds, il sent la cigarette, assis, il n'y a plus de dents dans la bouche. Mais c'est un gars qui avait un sang-froid incroyable.
Non, effectivement, ça prend un sang-froid. Puis, tu sais, la personne que vous avez rencontrée, l'agent double de la Sûreté du Québec, vous l'avez vu.
Oui.
Ça, c'était hot. Si vous avez manqué ça, là, c'est encore sur notre chaîne YouTube, BLVD Boulevard 102.1. Là. Vous allez dans la playlist de l'Open Mic, là, puis vous allez le retrouver. C'était particulier de le voir arriver, puis on avait ri parce que quand il était rentré, il était arrivé déguisé. Là. Puis on se disait, mon doux Seigneur. À qui c'est qu'on va jaser, tu sais?
Ouais, je suis tellement pas surpris de lui.
Alex Kane, il en a fait beaucoup de... Il en a écrit beaucoup de livres, là. Moi, j'ai vu Infiltrateur 1 puis Infiltrateur 2, là. Je les ai lus, j'avais adoré, puis je l'avais rencontré dans ces circonstances-là. Mais c'est ça, ça prend des gens particuliers pour faire ce travail-là qui est très particulier.
Ben moi, je vous dirais, là, si vous avez... tu sais, je veux pas faire de la publicité quand même, mais si vous avez un livre à lire et vous êtes intéressé par les informateurs, je vous dirais... Allez chercher L'Infiltrateur de Louis Tremblay d'Estriamble. C'est l'histoire de Louis Sans-Façon. C'est un agent double de la Sûreté du Québec. C'est vraiment intéressant. Il y a le deuxième, je ne me souviens plus son nom, je pense que c'est Boomerang, parce que ça a mal terminé son histoire.
Oui.
Mais Louis, c'était quand même quelqu'un d'influent. Et je vous dirais même, à la limite, ce serait possiblement intéressé à venir ici.
Ah, oh, ouais.
On est preneurs. Danny Morissette, ex-enquêteur à la Sûreté du Québec au crime majeur. C'est toujours un plaisir de t'avoir, mon ami. C'est le fun de te revoir. Ça faisait une couple de semaines que tu n'étais pas venu en studio, puis les auditeurs t'apprécient beaucoup. Fait qu'il était bien inquiète. Mais non, Danny est encore avec nous autres.
Ah, vous êtes donc fin. Merci.
11h15, on fait une courte pause, on vient.
Dans le retour. L'Open Mic avec Marceau et Audrey Pinchot.
Ah, c'est une belle rencontre. Ce que je sais, c'est que tu vas devoir passer un test du polygraphe bientôt, Audrey.
Ah, j'aimerais tellement ça.
J'espère que t'es prête. Es-tu prête à le passer en ondes?
Oui.
Ah oui?
Mais là, je veux pas que tu me coinces. C'est ça l'affaire. Il va falloir faire un pacte, toi pis moi, parce que je suis prête à le passer en ondes. Mais il faut que tu sois correct.
Ouais.
Si t'es pas correct, c'est là que je vais avoir un problème.
S'il y a pas moyen de s'amuser, moi, j'embarque pas là-dedans.
Il y a moyen de s'amuser.
Ouais.
Tant que tu vas pas dans le trop personnel. Ouais. Je pense que je suis assez livre ouvert, mais il y a des choses, tu sais, qu'à un moment donné...
Ouais, mais tu sais, je vois pas où est-ce que je pourrais aller que t'as jamais dit en ondes.
Mais ça, tu vois, c'est relatif, ça me fait rire. Je dis beaucoup de choses en ondes.
Ouais.
Puis je pense que...
Mais ta vie est encore pire.
Mais je dirais pas qu'elle est encore pire, mais tu sais, j'ai quand même un jardin secret, même s'il peut y croire, là.
C'est quoi?
Parce qu'il y a des limites à tout dans la ville.
Moi, après l'histoire des galeries de la capitale, sans trop rentrer dans les détails, je me suis dit que t'avais plus de cachette à faire à
Mais
personne.
Yann, c'est parce qu'il y a pas de tabou. C'est plus ça. Il y a pas de tabou. Il y a des secrets, mais il y a pas de tabou. Tout se jase dans la vie.
Bon.
Je pense que c'est elle la nuance.
Hey Audrey, papillon en fête, je sais pas si tu as déjà été, mais c'est une expérience qui est féerique. C'est un endroit où il y a énormément de papillons. C'est dans une ambiance où tu te sens un peu comme dans le sud, là, une ambiance tropicale. Il y a plus de 100 spécimens qui sont sur place, des spécimens de papillons qui viennent des quatre coins du monde. Donc, c'est au jardin Hamel, en fait, pour les gens qui se posent la question à savoir c'est où. C'est sur le boulevard Hamel. On est là jusqu'au 30 mars prochain. Il n'y a aucune réserve requise. C'est valide 7 jours sur 7. C'est non échangeable, non monnayable. J'ai quelque chose pour vous autres. Un laissez-passer familial unique.
Ah.
Valide pour deux personnes et deux enfants. Pendant la semaine de relâche, ça se prend super bien. Donc, un laissez-passer familial, deux adultes, deux enfants. Je l'ai à l'instant. Donc, tu m'écris par texto 418-971-1021. 418-971-1021.
Faut t'écrire quoi?
Et le mot de passe, c'est Audrey qui va vous dire ça.
C'est Monarque.
Monarque.
Ben là, je concède. On n'aime pas ça?
Sans faute?
Sans faute, c'est bon ça. Faut que t'arrêtes de me demander des affaires de même. Tu vois bien que je ne l'ai pas pantoute. Tous les jours, il y a une phase de déception quand je donne un mot de passe ou je demande une question.
Non, parce que ça vaut une petite fortune, ça, laisser passer
ben
passer
oui.
familial-là. Pour
Mais tout le monde mérite ça. Tout le monde mérite de passer un beau moment en famille.
Fait que le mot de passe, c'est monarque.
Monarque. 418, je sens la déception.
102-1. On te réécoute à 14h, Madame la déception.
Salut, là.
Salut. On se laisse avec les colocs sur les zones de boulevard. Pascal, CV, va s'amener dans le show dans les prochaines secondes. Bon Dieu! T'as bon job!
Ben oui!
S'il y en a qui appellent ça un job.
Salut!
Bon Dieu, t'as moyen de job!